sommes heureux de vous avoir parmi nous pour approfondir cette première encyclique du pape François, écrite par le pape Benoît XVI. Voilà, donc vous l'avez peut-être commencé à la lire, et peut-être que vous vous êtes arrêté en disant « elle est un peu difficile ». Voilà, donc c'est vrai qu'elle est quand même difficile, et il nous faut du temps pour bien l'approfondir. Je voudrais d'abord vous poser ces quelques questions avant de passer à cette encyclique. Comment avez-vous vécu votre année de la foi? Avez-vous cherché à obtenir la grâce de cette année? Avez-vous obtenu l'indulgence plénière que Benoît XVI vous offrait? Si vous le voulez, vous pourrez obtenir cette indulgence par la participation à cette session. Les conditions pour obtenir l'indulgence de l'année de la foi sont suivre les enseignements sur l'encyclique Lumen Fidei, se confesser sacramentellement, communier, prier aux intentions de notre pape François. Il est également nécessaire de ne pas être attaché à ses péchés et pour cela d'avoir une vraie contrition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être attaché à ses péchés? Mon père, je m'accuse d'avoir donné un coup de poing à mon voisin, mais il a bien mérité. Si c'était à refaire, je le referais. Alors évidemment, ça c'est une attache à son péché. Voilà. Donc, être détaché, ça veut dire, ce que j'ai fait, c'est mal, et j'en demande pardon. Voilà, c'est tout. Alors, demandez-en bien la grâce à l'Esprit-Saint. Vous voyez que vraiment cette session vous obtienne cette grâce de l'année de la foi. Et n'ayez pas peur, l'Esprit-Saint désire vous donner les conditions pour bien recevoir cette grâce de l'année de la foi. Et ainsi, vous repartirez de cette session avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, et vous goûterez le fruit de l'année de la foi qui est la joie de croire. C'est pour ce fruit que Benoît XVI a voulu cette année de la foi. En ouvrant cette année de grâce, donc cette année de la foi a commencé le 11 octobre 1962, et cette année de la foi va se terminer en la solennité du Christ roi, donc le quatrième dimanche du mois de novembre. En ouvrant cette année de la foi, Benoît XVI savait qu'il allait renoncer au ministère pétrinien. Il y a renoncé, nous savons pourquoi, à cause des forces physiques qu'il avait abandonnées. Il a bien toute sa capacité intellectuelle, mais il n'a plus la capacité physique de pouvoir assumer ce ministère. Il ne voulait pas nous laisser dans la tristesse et l'angoisse. Il s'est retiré dans la contemplation au sommet de la petite colline du Vatican et en cette année de la foi. Et redisons, il n'a pas déserté. Il n'a pas abandonné le navire qu'est l'Église. Mais poussé par le Saint-Esprit, il a pris cet acte courageux pour, dit-il, le bien de l'Église. Aujourd'hui, il prie, souffre et offre pour l'Église et pour chacun de nous, et il nous obtient des grâces pour vivre dans la joie de la foi. Gravons encore en nos cœurs ce qu'il vous disait à Madrid. N'ayez pas honte du Seigneur, n'ayez pas peur d'être catholique. L'encyclique que nous allons vous présenter pendant ces 3 jours est comme son testament. Nous ne pourrons pas vous la présenter intégralement, c'est-à-dire mot à mot. Elle est trop riche, elle est trop dense. Mais vous pourrez ensuite l'assimiler par vous-même. Et vous découvrirez alors que le don de la foi est un très grand don et que nous devons vraiment remercier Dieu de ce don. Quelle grâce avons-nous d'avoir la foi? Nous sommes vraiment des privilégiés. Jésus n'est pas seulement notre ami, il a voulu devenir notre frère, un frère qui nous aime à la folie et qui a donné sa vie pour nous. Ce frère est le Fils unique de Dieu, qui pour nous est devenu le Fils de la Vierge Marie. Ce frère nous a obtenu par sa mort sur la croix et sa résurrection de devenir les enfants adoptifs de son Père que l'Esprit Saint nous permet d'appeler Papa. Ce frère est don de Dieu, amour. Cet amour est aussi vérité. En venant dans notre monde, Jésus qui est l'amour est devenu notre lumière, la lumière des nations. C'est donc l'amour de Dieu qui nous a fait don de la lumière de la foi, donc Lumen Fidei, le titre de l'encyclique, ça veut dire lumière de la foi. Eh bien, c'est tout cela que Benoît XVI a voulu nous transmettre dans cette encyclique lumineuse, mais bien difficile. C'est vraiment le testament spirituel de ce grand pape. L'amour de Dieu s'est incarné, c'est Jésus, et cet amour nous a fait don d'une lumière, la lumière de la foi. Voilà ce que Benoît XVI a voulu nous dire et que nous essaierons de bien comprendre pendant ces 3 jours. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu des difficultés à lire cette encyclique. Bien sûr, je la lis, bien évidemment, mais à bien l'assimiler, j'ai eu des difficultés. Pourquoi? Parce que cette encyclique ne peut pas se lire comme un roman. Elle doit se méditer, passage par passage, tellement elle est dense et riche. Alors, la pensée de Benoît XVI. Benoît XVI m'a pas fait des réflexions pour dire voilà comment. Non, pas du tout. Ni le pape François. Mais je pense que Benoît XVI a voulu écrire cette encyclique comme un testament. Et un testament qui est comme une grande synthèse de tout ce qu'il a approfondi pendant toute sa vie. Et donc forcément, il n'a pas délayé ensuite. Ensuite, c'est à nous à délayer. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile de lecture, parce que c'est une très grande synthèse. Voilà. Et lorsque vous commencez les cours, si vous êtes en philo ou en n'importe quelle partie de cours, le premier cours est toujours plus difficile parce que c'est une synthèse. Et donc ensuite, le professeur, normalement, explique un petit peu pendant tout le temps de son cours ce qu'il a dit au début, et puis à la fin, il refait une synthèse. Et à la fin, ça commence à s'éclairer. Mais au début, on nage un peu. Voilà, après le premier cours, je pense qu'on doit se dire, où est-ce que je suis tombé, hein? Bon, voilà. Et puis ensuite, petit à petit, ça va mieux. Ben, c'est ce qui se passe avec cette encyclique. Nous avons là un testament spirituel de Benoît XVI. Notre pape François, qui l'a promulgué, a écrit dans l'introduction. Dans l'intention de mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, qui l'a conçu et rédigé en grande partie et de qui je l'ai hérité, l'encyclique vise non seulement à confirmer dans la foi en Jésus-Christ ceux qui se reconnaissent déjà en elle, mais aussi à susciter un dialogue sincère et rigoureux avec toute personne. Puisse cette session sur cette encyclique nous aider à mieux vivre de la foi sur cette terre pour nous préparer à notre vie éternelle dans le royaume de Dieu, et puisse aussi cette session nous aider à mieux comprendre les défis de la nouvelle évangélisation. Alors, je vais vous présenter rapidement, donc ça sera encore une synthèse de la synthèse, l'encyclique, et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure, les frères et les sœurs vous la développeront. Le titre de l'encyclique, d'abord, Lumen Fidei. Alors, toutes les encycliques, comme titre, eh bien, ce sont les premiers mots, les deux ou trois premiers mots en latin de l'encyclique qui donne le titre. Et ce titre nous donne, on peut dire, l'essentiel de ce qui va être approfondi dans l'encyclique. Donc, Lumen Fidei, lumière de la foi. Par cette expression, la tradition de l'Église, dit le pape François, a désigné le grand don apporté par Jésus qui, dans l'Évangile selon saint Jean, se présente ainsi « Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Saint Paul aussi s'exprime en ces termes. Le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs. Dans le monde païen, épris de lumière, s'était développé le culte au Dieu soleil. En latin, les Romains appelaient cela le sol invictus, le soleil invaincu, qui était invoqué en son lever. Même si le soleil renaissait chaque jour, on comprenait bien qu'il était incapable d'irradier sa lumière sur l'existence de l'homme tout entière. Celui qui croit, voit. Il voit, dit encore pape François, avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu'elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas. Jésus est bien supérieur au soleil. Il éclaire toute l'existence de chacun de nous, mais aussi l'existence de tous les hommes. Jésus nous révèle le mystère de Dieu, le vrai visage de Dieu, et il nous révèle le mystère de l'homme, de tout l'homme, de tous les hommes. Le soleil physique ne peut pas éclairer en même temps toutes les parties de la terre. Pendant qu'une partie est éclairée, l'autre partie est dans l'ombre. Jésus, lui, le soleil spirituel invaincu, peut tout éclairer. Il n'y a pas, avec cette révélation que Jésus vient nous donner, tout est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Jésus. La foi est donc bien une lumière, la lumière supérieure qui nous fait participer à Dieu vérité. Le vieillard Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple, a prophétisé sur l'enfant Jésus et il a appelé « lumière des nations ». Comprenons cela en profondeur et remercions Dieu le Père de nous avoir envoyé son Fils pour être notre lumière en ce monde de ténèbres. Dans le prologue de son évangile, saint Jean révèle le combat entre la lumière et les ténèbres. Ce combat, Benoît XVI n'a pas cessé de nous en parler en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, puis en tant que pape. Sa devise en témoigne, coopérateur de la vérité. À sa suite, désirons être nous aussi des collaborateurs de la vérité qu'est Jésus, pour aider les hommes de notre temps à ne pas demeurer dans les ténèbres, à ne pas préférer les ténèbres et à ne pas haïr la lumière. Quel est le sens de cette encyclique promulguée par notre pape François et écrite par Benoît XVI ? Je reprends ce que je vous ai déjà dit en introduction. Celui qui a élaboré un tel texte est pour moi le plus grand pape théologien de l'Église. C'est parce qu'il est arrivé au sommet de sa contemplation de la vérité en personne qu'est le Verbe incarné qu'il a pu écrire ce qu'aucun autre théologien n'avait pu écrire sur le lien entre amour et vérité. Notre pape François, nous pouvons le penser, a compris le trésor que représentait ce dernier écrit de Benoît XVI. Il l'a transmis intégralement en se contentant d'y ajouter quelques commentaires personnels. Benoît XVI a choisi en tant qu'évêque et pape la devise « coopérateur de la vérité ». Sa première encyclique n'a pas été sur la vérité. Pourtant, sa devise « coopérateur de la vérité ». On aurait pu dire « il va nous parler de la vérité ». Eh bien non, sa première encyclique n'est pas sur la vérité, comme certains auraient pu s'y attendre, mais sur la charité. « Deus caritas est ». Dieu est amour. Il a ensuite donné une autre encyclique sur l'espérance, puis une troisième encyclique sur la charité en acte, « Caritas in veritate », l'amour dans la vérité. Il a conclu sa mission pétrinienne en préparant une encyclique lumineuse sur la vérité révélée par l'amour en personne qu'est le Verbe incarné. Par humilité, dirais-je, il n'a pas promulgué son encyclique, mais il l'a volontairement laissée inachevée. Merci à notre pape François de ne pas avoir laissé ce trésor se perdre dans les archives du Vatican et de l'avoir si rapidement promulgué. Tout en écrivant ce chef-d'œuvre, Benoît XVI comprenait les objections des hommes de notre temps qui ne partageaient pas la foi de l'Église et qui avaient peur de la vérité objective. La vérité, la grande vérité, disait Benoît XVI, qui explique l'ensemble de la vie personnelle et sociale, est regardée avec suspicion. Aujourd'hui, les hommes ont peur de la vérité. Il reste alors seulement un relativisme dans lequel la question sur la vérité de la totalité, qui au fond est aussi une question sur Dieu, n'intéresse plus. Et vous allez reprendre cela tout à l'heure, hein, avec les frères. Donc, c'est le grand défi qui est devant nous. Nous devons redonner confiance aux hommes de notre temps pour leur dire, avec votre intelligence, avec votre cœur, vous pouvez vous ouvrir à la vérité et vous pouvez découvrir la vérité. Et la vérité existe. Le premier chapitre est intitulé « Nous avons cru en l'amour ». Vous voyez, la lumière de la foi, on ne commence pas par la vérité, mais « Nous avons cru en l'amour ». Benoît XVI a voulu expliquer la relation entre amour et vérité. Et je cite numéro 27 de l'encyclique. Croire serait semblable à l'expérience de tomber amoureux. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans amour, la vérité se refroidit, devient impersonnelle et opprime la vie concrète de la personne. La vérité que nous cherchons, celle qui donne sens à nos pas, nous illumine quand nous sommes touchés par l'amour. Celui qui aime comprend que l'amour est une expérience de vérité, qu'il ouvre lui-même nos yeux pour voir toute la réalité de manière nouvelle, en union avec la personne aimée. Si la vérité est la vérité de l'amour, et ça cela est dit au numéro 32, ce n'est pas une vérité qui s'impose avec violence. Ce n'est pas une vérité qui écrase l'individu. Naissant de l'amour, elle peut arriver au cœur, au centre de chaque personne. Il résulte alors clairement que la foi n'est pas intransigeante, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l'autre. Le croyant n'est pas arrogant. Au contraire, la vérité le rend humble, sachant que ce n'est pas lui qui la possède, mais c'est elle la vérité qui l'embrasse et le possède. Loin de le redire, la sécurité de la foi le met en route et rend possible le témoignage et le dialogue avec tous. Le premier chapitre de l'encyclique « Nous avons cru en l'amour » vous fera découvrir ce lien entre amour et vérité. Ce lien, nous devons en témoigner auprès de tous. Ce lien nous permet de comprendre notre mission de baptiser. Nous ne devons pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire utiliser des moyens contraires à l'Évangile, argent ou contraintes physiques ou morales, pour faire des disciples. Jésus n'a jamais contraint qui que ce soit. Mais Jésus a toujours dit et nous dit à nous aussi aujourd'hui, « Si tu veux, je ne t'oblige pas, mais si tu veux, viens et suis-moi. » Jésus est doux et humble de cœur. Il est venu éclairer notre route. La lumière qu'il nous apporte ne nous aveugle pas, ne nous écrase pas, mais nous révèle le vrai visage de Dieu et le mystère de l'homme. Nous savons en sa lumière qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Et c'est là qu'est l'angoisse des hommes de notre temps aujourd'hui. Car si je ne sais pas qui je suis, d'où je viens et où je vais, il y a de quoi désespérer. Eh bien, Jésus est ma lumière. Et dans cette lumière, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je fais totale confiance en Jésus parce que je sais qu'il ne peut ni me tromper, ni se tromper. Il est le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme par amour et qui s'est livré pour nous par amour. Croire en l'amour, c'est se mettre en chemin. C'est ce que dit le pape François. Jésus disait à ses disciples, « Viens et suis-moi. » Celui qui se met en chemin pour faire le bien s'approche déjà de Dieu, est déjà soutenu par son aide, parce que c'est le propre de la dynamique et de la lumière divine d'éclairer nos yeux quand nous marchons vers la plénitude de l'amour. On pourrait prendre d'autres images. Quand il y a la nuit noire, pas de lune du tout, prenez une voiture et roulez sans phare. Vous ne ferez pas beaucoup de kilomètres. C'est ce qui se passe dans notre vie, si nous roulons sans phare. Donc, la lumière que nous apporte Jésus, eh bien, elle nous éclaire la route. Voilà. Donc, je sais sur quelle route je dois avancer dans ma vie. Deuxième chapitre, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Je ne sais pas si vous avez lu cette deuxième partie. Certains me disent, oh là là, c'est bien, c'est encyclique, c'est formidable. Oui. Mais j'ai envie de leur dire, tu peux m'expliquer le deuxième chapitre de l'encyclique, s'il te plaît, un petit résumé, quoi, explique-moi, tranquille. Parce qu'il y a une petite chose que je n'ai pas encore bien comprise. Voilà. C'est la partie la plus difficile de l'encyclique. J'espère que cette session vous permettra d'en comprendre les enjeux. La tradition de l'Église à la suite de saint Thomas d'Aquin et des grands théologiens a bien distingué la lumière de la foi et la lumière de la gloire dans le face-à-face avec Dieu. Donc, sur cette terre, je vis de la foi. Les saints que nous allons fêter demain, et déjà ce soir, nous commençons à les fêter, eux, ils sont dans la gloire. ils voient Dieu, mais nous, nous ne le voyons pas. Et pourtant, par la foi, nous participons à la science de Dieu. La connaissance que les saints ont en voyant Dieu, nous l'avons nous aussi déjà par la foi, mais sans voir. Donc, nous y participons en demeurant dans une certaine nuit. Voilà, nous sommes dans la lumière tout en étant dans la nuit. Et Jésus a dit, après que saint Thomas ait touché ses plaies en son corps de ressuscité, « Bienheureux celui qui croit sans avoir vu ». Comprenons plus en profondeur que la lumière de la foi n'est pas une science inférieure aux autres sciences humaines. Elle n'est pas en contradiction avec ces sciences. Il faut pas prendre... Non, on a besoin de toutes les sciences. Et l'Église demande à tous les scientifiques de développer leur savoir. C'est important pour l'humanité. Mais la lumière de la foi est une science supérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle est participation à la science de Dieu. Le drame de beaucoup de nos contemporains ne réside-t-il pas dans cette incapacité de comprendre le mystère de leur propre humanité ? Si l'homme, comme je viens de vous le dire, ne sait pas qui il est, d'où il vient, où il va, quel sens peut avoir sa vie ? Comprenons donc la grande grâce qui nous est faite par le don de la foi et ce que Jésus nous apporte. Je vous transmets ce que j'ai reçu, c'est le chapitre 3. Nous approfondirons samedi matin ce troisième chapitre. Ce soir, je voudrais souligner cette pensée qui m'est venue après avoir beaucoup pâti pour assimiler cette encyclique et vous la présenter simplement. Il me semble, alors je dis « il me semble » car je ne suis pas infaillible. Voilà, je vous dis ce que j'ai pensé. Il me semble que Benoît XVI, au terme de son pontificat, a voulu écrire en ce chapitre, sans parler de lui, soulignons-le, non ? Il n'est pas à dire « moi président », bon. Bon, voilà, hein ? Donc il n'a pas parlé de lui. Voilà, mais il a voulu dire le grand désir de son cœur de pape. Et le grand désir qu'il a toujours eu, depuis que Jean-Paul II l'avait appelé à être préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi en 1981, jusqu'en cette fin février 2013, mon grand désir, c'est de transmettre l'intégralité de ce que j'ai moi-même reçu. Je ne me fatigue pas d'écouter, de réécouter les chapitres de Jésus de Nazareth, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui ont été mis en CD, et je vous encourage à vous procurer ces CD, parce qu'en voiture, vous mettez les CD, et puis au bout de la 12e fois, vous commencez à comprendre tout ce que Benoît XVI a écrit dans ces trois tomes de la vie de Jésus. De Jésus de Nazareth. C'est un trésor extraordinaire qui nourrira des générations et des générations de chrétiens. En tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Joseph Ratzinger a beaucoup souffert de la crise de l'Église. En tant que pape, il a voulu transmettre à l'humanité tout ce qu'il avait reçu et approfondi sur le vrai visage de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, crucifié et ressuscité, Jésus le vivant. C'est en Jésus et en Jésus seul qu'est la vraie et la seule espérance de l'humanité, a-t-il dit dans son encyclique sur l'espérance. La transmission intégrale et fidèle de la foi est pour Benoît XVI fondamentale. Si les chrétiens d'Europe et de France ne transmettent plus fidèlement la foi de l'Église, notre continent oubliera totalement ses racines chrétiennes. L'Église est la tradition vivante. Elle ne grandit pas par le prosélytisme, mais en transmettant Jésus, qui est la voie, la vérité et la vie. Combien nous devons remercier Dieu de nous avoir donné, après Jean-Paul II, le grand pape Benoît XVI. À sa suite et sous la conduite de notre pape François aujourd'hui, ayons à cœur de transmettre la foi fidèlement et intégralement. N'ayons pas peur, soyons courageux et fidèles. Et puis le dernier chapitre, Dieu prépare pour eux une cité. Donc c'est le chapitre 4. Ce quatrième chapitre sera approfondi dimanche matin. Le titre de ce chapitre, Dieu prépare pour eux une cité, ne serait-il pas le dernier message que Benoît XVI voulait nous donner avant d'entrer dans le silence de sa vie contemplative au sommet de la colline du Vatican? C'est ainsi que je reçois ce chapitre. Je ne peux pas oublier l'homélie du dernier mercredi décembre. C'était la dernière homélie du pape Benoît XVI. Et il n'y en aura plus. Il a gardé maintenant, il veut être dans le silence. Je n'oublie pas la dernière audience de Benoît XVI, le dernier mercredi de février. L'homélie et le discours de cette dernière audience ne révèlent aucune tristesse, mais la joie et l'espérance. Ce grand pape avait commencé son pontificat en affirmant que l'Église était vivante et jeune. Nous étions tous tristes après la mort du grand pape Jean-Paul II. Nous avions besoin de l'encouragement de Benoît XVI. Oui, le pape Jean-Paul II est mort, mais l'Église est vivante et jeune. Au terme de son pontificat, Benoît XVI a encore parlé de l'Église vivante. Ce pape si humble savait qu'il n'était pas irremplaçable. Il savait que c'est Jésus qui guide l'Église et non pas le successeur de Pierre, en qui Jésus agit, successeur de Pierre qui est un pauvre petit instrument. Au terme de son pontificat, il veut donc nous dire « Ne soyez pas tristes, mais regardez en haut, vers la cité céleste, là où est votre patrie éternelle. » Ce dernier appel, cependant, n'était pas un appel à fuir ce monde. En se réfugiant dans la contemplation, Benoît XVI ne l'a pas fui, mais il lui demeure encore plus présent en ne vivant qu'en union à Jésus crucifié. Plus nous serons unis à la croix de Jésus, plus nous serons présents à tous les hommes de notre temps, mais aussi à tous les hommes de tous les temps. La vraie contemplation doit déboucher dans le service des hommes de notre temps. Nous lisons au numéro 51. La foi perçoit le fondement ultime et le destin définitif en Dieu, dans son amour, et elle éclaire ainsi l'art de l'édification en devenant un service du bien commun. Oui, la foi est un bien pour tous. Elle est un bien commun. Sa lumière n'éclaire pas seulement l'intérieur de l'Église et ne sert pas seulement à construire une cité éternelle dans l'au-delà. Elle nous aide aussi à édifier nos sociétés afin que nous marchions vers un avenir plein d'espérance. Merci à Benoît XVI. Merci à notre pape François de nous avoir donné une telle encyclique qui révèle que la foi n'est pas une drogue pour endormir les hommes, l'opium du peuple dont parlait Karl Marx. La foi n'est pas une idéologie dépassée qui empêcherait l'homme d'être un homme entreprenant et un chercheur, comme le pensait Nietzsche. La foi, au contraire, transforme notre cœur et fait de nous des révolutionnaires de l'amour. Les historiens ne peuvent que constater cette évidence, les saints ont vraiment fait les plus grandes entreprises de l'humanité. Ce sont eux qui ont fait les plus grandes œuvres humanitaires. L'encyclique se conclut par un développement sur la foi de la Vierge Marie, et je lis tout simplement cette conclusion au numéro 59. Étant fils, Jésus peut apporter au monde un nouveau commencement et une nouvelle lumière, la plénitude de l'amour fidèle de Dieu qui se livre aux hommes. D'autre part, la maternité véritable de Marie a assuré au Fils de Dieu une véritable histoire humaine, une véritable chair dans laquelle il mourra sur la croix et ressuscitera des morts. Marie l'accompagnera jusqu'à la croix. De là, sa maternité s'étendra à tout disciple de son Fils. Elle sera également présente au Cénacle après la résurrection et l'ascension de Jésus pour implorer avec les apôtres le don de l'Esprit-Saint. Le mouvement d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit a parcouru notre histoire. Le Christ nous attire à lui pour pouvoir nous sauver. Au centre de la foi se trouve la confession de Jésus, Fils de Dieu, né d'une femme, qui nous introduit par le don de l'Esprit-Saint dans la filiation adoptive. Tournons-nous vers Marie, mère de l'Église et mère de l'Esprit-Saint dans la filiation et mère de notre foi. Mère de l'Église et mère de notre foi, en priant. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans des moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur.